Cela se passait en 1951. Environ un an et quelques mois plus tard, on organisa un référendum dans tous les kibboutzim du mouvement Hachomer. Référendum, car le terme hébreu de souhait du peuple n'avait pas encore été inventé. On demandait aux camarades du kibboutz s'ils étaient pour ou contre les procès de Prague, procès mis en scène dans la capitale de la Tchécoslovaquie et dont la plupart des accusés étaient juifs. On leur reprochait des liens trotskistes, titoïstes, sionistes au service de l'impérialisme américain. Et le courant gauchiste des kibboutzim appuyait ces accusations et la tenue des procès. Parmi eux, il y avait aussi des gens du noyau égyptien. En tant que communiste fidèle à Staline, le soleil des peuples, il croyait aux liens trotskistes, titoïstes, sionistes au service des Américains, bien que deux Israéliens, dont un représentant du mouvement national des kibboutzim, étaient allés à Prague et s'étaient fait arrêter pour espionnage contre l'URSS. Ceux du noyau égyptien croyaient qu'ils pouvaient voter à leur guise. Ils prenaient la liberté de penser ou la fidélité au parti et à Staline, ou les deux à la fois, et ne se doutaient pas de ce qui les attendait. Mais très vite, à l'issue de 3 ans à peine comme membres du kibboutz, ceux qui avaient voté pour la tenue des procès de Prague furent contraints de quitter le kibboutz où ils avaient prévu de passer une vie. L'expulsion transforma les Égyptiens en citadins dotés d'une conscience nouvelle. Nombre de ceux qui s'installèrent à Tel Aviv ou même à Holon réussirent à s'intégrer. D'autres devinrent des postes traumatisés.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Au lendemain de la naissance de l'État d'Israël et alors que la tension avec les pays arabes est à son maximum, les Juifs égyptiens, installés depuis des siècles sur les rives du Nil, se voient poussés à un nouvel exil. Pour ceux qui, socialistes et communistes, partagent l'idéal sioniste des fondateurs du nouvel État, choisir de s'établir dans un kibboutz est un devoir, accompli dans la ferveur et l'enthousiasme. Mais en Israël, ce sont les Ashkénazes, arrivés d'Europe de l'Est dès l'avant-guerre, qui tiennent le haut du pavé et dirigent l'infrastructure des kibboutzim. Les nouveaux arrivants, jugés trop proches des Arabes et demeurés des staliniens convaincus, alors qu'Israël se rapproche des États-Unis, seront rapidement marginalisés. Ils devront réviser leurs rêves à la baisse et apprendre à se fondre dans un pays qui ne les comptera jamais au rang de ses héros. Orly Castelblum est née à Tel Aviv dans une famille d'origine égyptienne. Le français y fut sa langue maternelle jusqu'à l'âge de 3 ans. Écrire pour elle et s'emparer de l'hébreu, d'une façon jugée parfois irrévérencieuse, c'était parvenir à se créer un lieu où enfin elle se sentirait à sa place, rassurée et légitime. Pas toujours aisée dans un pays éternellement en guerre et traversé d'oppositions raciales, ethniques et religieuses qui semblent irréductibles. Livre après livre, Orly Castelblum bâtit une œuvre originale, grinçante, drôle et tragique, qui en utilisant ses propres névroses, ses failles et sa mémoire intranquille, nous parle mieux que d'autres de ce pays où le présent semble toujours tourner le dos à l'avenir. Elle publie aujourd'hui chez Actes Sud le roman égyptien, magnifiquement traduit par Rosie Pinas Del Puech, et dans lequel elle raconte en 15 histoires douces amères tout ce qui l'a construite. Orly Castelblum est aujourd'hui l'invitée de l'humeur vagabonde. Michel Zlotowski sera notre interprète. Ta-da.
Marche-t-il à l'envers, ou est-ce moi qui compte un repos? De quoi se fait ces fous? Des girouettes tant trombones, leur l'air se dédouble sous le papier carbone. J'ai peur quand ils rient, je pleure quand ils jubilent, et la sueur sur leur front m'effraie. J'éteins les écrans, fermés. Des tirages fontaine, puis partent en campagne en quête d'un Molière. Ils me noient sous leurs flots dans des vagues de sourires, et comme Dalida dit, parole, 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 j'ai peur quand ils rient, je pleure quand ils jubilent, et la sueur sur leur front m'effraie.
Bonjour Orly Castelblum. Vous avez toujours été très présente dans vos livres, mais dans ce livre-ci, le roman égyptien, on vous y trouve presque tout entière. J'ai eu l'impression, en refermant le livre, que j'étais rentrée dans votre bureau et que j'avais vu, s'il y a un panneau de Liège, des photos, des extraits de presse découpés, des citations, comme si dans ce livre, il y avait tout ce qui vous a construit jour après jour. Est-ce que je me trompe ?
C'est un sentiment parfaitement légitime et assez exact.
Vers
mes 50 ans, aujourd'hui j'ai 56 ans quasiment,
j'ai commencé
à me rendre compte que je commençais à oublier certaines choses. Des choses qui s'effacent.
ואז אמרתי לעצמי שאני חייבת עכשיו
maintenant
לעצור ולכתוב את הרומן האוטוביוגרפי שלי לפני לפי איך שאני מבינה מה זה אוטוביוגרפיה
tel que je comprends ce qu'est une autobiographie.
ונכנסתי ועשיתי לעצמי יצרתי לעצמי 5 שנים של שקט
et je me suis organisé 5 années de tranquillité.
הבן שלי הלך לצבא.
Mon fils est parti servir l'armée.
הבת שלי עזבה את הבית.
Ma fille a quitté la maison.
אמרתי לעצמי, עכשיו אני יכולה לכתוב בצורה מקסימלית.
Je peux écrire au maximum des possibilités.
ובאמת, כל יום,
et en fait, chaque jour,
התעוררתי בשלוש לפנות בוקר.
Je me réveillais à 3 heures du matin.
ועד 8 בבוקר כתבתי.
Jusqu'à 8 heures, j'écrivais. Après, je faisais une petite pause. Je regardais ce que j'avais écrit.
Et puis après,
je ne faisais rien jusqu'au lendemain, 3 heures du matin. C'est vrai, vous êtes rentré dans mon bureau.
Je
me suis livré à cette écriture comme si c'était véritablement la rémission d'un grand péché.
קניתי לוח לא גדול שכותבים עליו בטוש שאפשר למחוק.
Sur lequel on écrit, vous savez, avec un stylo feutre et puis qu'on peut effacer par la suite.
התחלתי עם שני הפרקים הראשונים.
J'ai commencé avec les deux premiers chapitres.
ונתקעתי.
Et j'ai été bloqué.
נכון, יכולתי לשאול את
קרובי המשפחה שלי. C'est vrai, j'aurais pu poser des questions aux membres de ma famille, à mes proches, à ma maman, à mon oncle.
כל מיני דברים על שקרו
במצרים en Égypte
ובקיבוץ
יו קיבוץ
אבל לא היה לי מישהו שיגיד לי איזה יופי
il y avait personne pour me dire ah c'est bien continue.
אז המשכתי לבד.
Donc j'ai continué toute seule.
מאוד לאט.
Très seule.
קראתי הרבה ספרים בהיסטוריה.
Beaucoup de livres d'histoire sur l'époque de l'expulsion d'Espagne.
וכתבתי כמה סיפורים בבת אחת.
J'ai écrit plusieurs histoires d'un seul coup.
נמאס לי מזה, עברתי לשני.
J'ai passé autre chose.
נמאס לי ממנו, עברתי לאחד אחר.
J'ai fatigué cette histoire-là, j'en écrivais une autre.
היה סיפור קשה, הלכתי לכתוב סיפור קל.
C'était une histoire dure, difficile, je passais à une histoire plus facile.
כל הבית היה באמת מוקדש לכתיבה של הספר הזה.
Toute la maison était dédiée. À l'écriture de ce livre. Et toute ma journée. Il était dédié aussi.
Je me suis dit, maintenant,
fais le maximum de ce que tu peux faire.
Je suis vraiment arrivé
à l'extrême possibilité de mes puissances cognitives. Ça ne peut pas aller au-delà.
D'ailleurs, en vous écoutant, on comprend, Orly Castelblum, que ce roman égyptien, il est composé de 15 chapitres, mais qui sont comme 15 nouvelles qui pourraient être lues indépendamment les unes des autres. Ce sont 15 chapitres, 15 nouvelles, 15 histoires. On sent bien que vous êtes passé de l'une à l'autre. Et à la fin, en refermant, on a le tableau complet. C'est bien comme ça.
Oui.
Sur le tableau, j'avais marqué le nom des chapitres, j'avais marqué les titres, je les bougeais d'un endroit à un autre.
J'ai attendu beaucoup de temps après avoir écrit chaque chapitre,
pour qu'il soit un peu vieilli.
כאילו כל הסיפורים האלה נמצאים כבר באיזה מקום, ואני מגלה אותם.
Ces histoires, en fait, elles existaient déjà, et moi je les découvrais simplement.
אז לא עזבתי את אף קטע עד שהוא לא קיבל ארומה של ממצא ארכיאולוגי או היסטורי.
Aucun de ces passages avant qu'il n'ait cet arôme, ce parfum historique.
הקשר בין הסיפורים הוא באמת לא כרונולוגי.
Le lien entre les chapitres n'est pas du tout chronologique.
במשך 4-5 שנים שכתבתי לי,
היה לי איזה סדר. Au cours des 4-5 années d'écriture, il y avait un certain ordre.
אבל רק שבועיים לפני שמסרתי את הכתב יד לעורך.
Deux semaines avant d'envoyer le manuscrit à l'éditeur.
הבנתי מה הסדר הנכון.
J'ai compris quel était le bon ordre.
וככה שלחתי אותו, ואף אחד לא נגע בסדר יותר.
Et personne n'y a touché depuis.
הייתה עבודה קשה.
C'était un travail difficile.
וזה מילא אותי מאוד.
Et ça m'a véritablement rempli.
וככה גם לא דאגתי, מי יודע מה, לבן שלי שבצבא.
Et donc d'une certaine manière, j'ai pas eu à m'inquiéter de ce qui arrivait à mon fils qui était sous les drapeaux.
Orly Castelblum, je le disais, l'écriture comme un lieu où on peut se sentir à l'abri, mais c'est aussi une manière d'exorciser les démons. C'est un livre qui parle de l'exil, mais de toutes sortes d'exils. L'exil vrai, celui quitter un pays, en être expulsé, décider d'en partir. C'est un exil intérieur parce que la plupart de vos personnages sont comme en exil eux-mêmes, dans leur famille, dans le lieu où ils se retrouvent à habiter. On va commencer par écouter, avant d'en parler avec vous, la lecture d'une page de votre livre. C'est sur ce qui s'est passé au kibboutz lorsque les membres du noyau égyptien s'y sont retrouvés.
Au kibboutz, ceux du noyau égyptien avaient la réputation de travailleurs de choc, qui assumaient 2 postes par jour, le matin et le soir. Les jeunes étaient sur les tracteurs des 2, des 4 et des 6. Filles et garçons étaient à pied d'œuvre des heures durant. Ils épandaient de l'engrais, moissonnaient, trayaient, s'occupaient des poulaillers, du compost, et partaient hors du kibboutz creuser de nouvelles routes dans le nouveau pays. Un jour, Bruno s'était perdu dans le Negev, sur un tracteur des travaux publics. Il avait involontairement franchi la frontière avec l'Égypte, mais il fut aussitôt localisé et ramené au bercail. Leur vie était pleine d'activités. Le soir, ceux du noyau égyptien participaient avec les autres membres du kibboutz à des débats qui s'achevaient par des votes. On votait pour un oui, pour un non. Des cris s'élevaient jusqu'au tréfonds du ciel. Des débats se poursuivaient jusque tard dans la nuit pour savoir si le mouvement des kibboutzim était le cœur du prolétariat, s'il était le noyau qui conduirait les ouvriers de la ville et de l'industrie vers la révolution socialiste en Israël, quand celle-ci adviendrait, si elle advenait. Les Égyptiens devenaient de plus en plus des kibboutzniks. Et plus ils le devenaient, plus ils se mêlaient aux discussions stupides qui effritaient la chômère à Tsaïr. Dans leur naïveté, ils prenaient trop au sérieux la liberté de penser et ne tenaient pas compte du fait qu'il était inconcevable qu'un groupe composé de membres d'une même ethnie puisse voter pour, quand le kibboutz recevait l'ordre du mouvement central de voter contre. Les anciens ne furent pas impressionnés par les Égyptiens. Ils créèrent une commission d'expulsion composée de deux membres, le responsable du jardinage, Mishke, de 2 mètres de haut, et l'homme des travaux des champs, Ignace, bien plus petit que l'autre. 4 candidats à l'expulsion participèrent au débat, déterminés à être forts et à se battre. Ils croyaient que le débat était encore possible, qu'ils pouvaient tenter de persuader les camarades de la commission qu'après tout, leur vote était dirigé contre l'impérialisme américain, vers lequel le sionisme se laissait parfois entraîner, mais qu'eux-mêmes ne représentaient aucun danger, ni pour le kibboutz, ni pour le pays. Mieux encore, qu'ils étaient une force de travail vitale, ce qui était la raison même de leur départ d'Égypte, se consacrer au kibboutz. Mais la commission d'expulsion n'avait pas été créée pour ne pas expulser. Elle se contenta d'un débat concret et efficace, et arriva à une conclusion pragmatique sur la manière de les renvoyer du kibboutz.
Orly Castelblum, dans ce passage, c'est l'histoire et la blessure de vos parents, de leurs amis, de ce que vous appelez le noyau égyptien, qui venait de subir une expulsion, un exil d'Égypte, et qui se retrouvait expulsé, exilé du kibboutz, alors qu'ils étaient arrivés plein de cet idéal qu'ils avaient. Alors vous le décrivez, vous dites « contre toute discrimination, pour la fraternité, la solidarité, contre le racisme ». Et c'est pour ça qu'ils ont été expulsés. Cette blessure-là, elle est transmise de père en fille, de mère en fille. Elle vous a été transmise.
Je me souviens
qu'il était interdit à la maison de parler de l'exil de Ein Shemer, du kibboutz.
Et je disais à maman
pour l'énerver, allez, raconte. T'as pas intérêt à dire un mot. Attention, je vais perdre mon travail à la banque. C'est interdit.
אסור להיות פה חתרני. אסור ללכת נגד המשטר.
Allez contre le gouvernement ici, attention.
ובאמת רק במרפסת שלנו, בבית.
Et ce n'est que sur notre balcon à la maison.
שאחרי שנים, 15 שנה אחרי שהם גורשו.
15 ans après qu'ils aient été chassés du kibboutz.
גם נזהרו לא לדבר על הגירוש.
On faisait attention aussi de ne pas en parler.
ואני את הסיפור של הגירוש
הוצאתי. Et moi cette histoire de l'exil, je l'ai extirpé de force de ma mère. Et ça m'est arrivé, j'ai eu entre les mains un travail de séminaire qui a été écrit dans les années 80, quelqu'un du kibboutz, sur cette histoire extrêmement triste, dure. C'était vraiment un matériau extraordinaire pour moi. Il y avait des témoignages de la commission des expulsions, ce qui se disait dans les coulisses.
J'ai
toujours posé la question, mais pourquoi ils ont été expulsés?
Selon
ce que j'ai lu dans ce mémoire, c'était pour des raisons beaucoup plus profondes que ce qui a été dit pendant ce vote.
Lorsque
les Égyptiens sont arrivés en bus au kibboutz Ein Shemer en
51,
les anciens du kibboutz
étaient certains
que descendraient de ce bus des gens habillés en djellaba, pieds nus, complètement décoiffés, peut-être qu'ils ne s'étaient pas lavés depuis longtemps aussi.
Et puis voilà,
du bus descendent des filles coquettes en jupe plissée venues de France, des garçons qui sont avec des cravates et tout ça, bien habillés. C'était un choc pour les anciens du kibboutz. C'était un choc culturel pour eux. Aujourd'hui, je pense avec beaucoup de délicatesse en fait qu'il s'agissait de racisme.
Eux-mêmes,
ils voulaient diriger les Arabes de telle sorte qu'ils deviennent des gens de gauche, mais ils ne voulaient pas que ça soit fait par des gens qui viennent d'Égypte.
Ils
n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé le fait qu'eux parlaient l'arabe.
Ils étaient certains
qu'ils allaient rester au kibboutz jusqu'à leur mort.
Que faire?
Après 2-3 ans, on les a expulsés.
150
livres en poche de l'époque.
והעלו אותם לאוטובוס.
On les a fait monter sur un bus.
יאללה, לחדרה.
Allez, יאללה, à Khadera.
מחדרה אוטובוס לתל אביב.
Et de Khadera, un autre bus pour Tel Aviv. Et puis voilà.
לא שמעו אותם.
Dans les années 1980,
עשו סולחה.
On a fait un pardon, en quelque sorte.
הקיבוצניקים והמצרים נפגשו בקיבוץ.
Les Égyptiens se sont rencontrés au kibbutz. On a mangé, fait un grand repas.
וכאילו זה עבר בשלום.
Et puis bon, tout s'est bien passé, tranquillement.
לפני כמה שבועות נתתי הרצאה בבית אבות.
Il y a quelques semaines, j'ai donné une conférence dans une maison de retraite.
וסיפרתי על הסולחה הזאת שעשו בקיבוץ.
Et j'ai raconté cette histoire du pardon, entre guillemets.
ומישהו מה... שלא ראיתי מי הוא שצועק לי...
que je n'ai pas bien vu m'a crié.
Mi salach le mi?
Qui a pardonné à qui?
Mi salach le mi? Vezot be'emet ha'shela, mi salach le mi?
La question, qui devait pardonner à qui?
Orly Castelblum, vous avez employé tout à l'heure le mot racisme. On sait bien que le racisme envers les Juifs du Proche-Orient, il a été ressenti par beaucoup de ceux qui sont issus de familles qui venaient d'Égypte, d'Irak, des pays arabes à côté. En 2012, j'avais reçu Ronit Matalon. C'était Michel Zotowski qui la traduisait.
En ce qui concerne les Juifs orientaux, la chose la plus dure qu'il y a eu dans cette rencontre, c'est pas tellement, vous savez, qu'il y ait eu un problème social et économique, mais le mépris culturel, vous savez, l'humiliation. Il se trouve que tout au long des années, que c'est véritablement la blessure la plus grave. Et la blessure qui ne guérit pas. Vous savez, ce mépris qu'il y a envers la langue arabe. Pourquoi ? Vous savez, la plus grande partie de l'écart entre les séfarades et les ashkénazes, cet écart a beaucoup changé. Parce que la société israélienne a énormément changé. La relation à la culture orientale a changé. Mais en profondeur, au fond, il y a quelque chose qui n'a pas changé. Quelque chose de très fondamental dans l'État d'Israël vis-à-vis de l'Orient qui l'entoure, eh bien ça n'a pas changé. Et ça influence sur la façon dont les Juifs orientaux se considèrent eux-mêmes.
Orly Castelblum, cette blessure, cette amertume, ce sentiment d'un fossé entre les Ashkénazes et les Séfarades, entre les Juifs qui connaissent le mieux les Arabes et ceux qui en ont une vision plus lointaine, ça perdure aujourd'hui en Israël.
Il y a aujourd'hui une nouvelle vague. Cette boîte de Pandore s'ouvre à nouveau. Les gens qui ont 30 ans aujourd'hui
חושבים שזה הזמן לעשות את המלחמה של ההורים.
Il est temps de faire la guerre des parents.
ואולי זה נכון, אבל יש בינתיים עוד מלחמות לעשות.
En attendant, il y a d'autres guerres à mener.
המלחמה לשלום, המלחמה להישרדות,
la survie. Mais en ce qui concerne le judaïsme en Égypte, les juifs égyptiens,
היהודים המצרים שהגיעו לישראל עשו את זה דרך צרפת.
Les juifs Égyptiens qui sont venus en Israël sont venus par la France. Ils sont venus faire un camp spécial en France. Parce que leur culture était française. Ils ont été éduqués dans des écoles françaises ou anglaises.
Et
le français et la culture française qui étaient très profondes chez nous.
בבית אצלנו,
à la maison chez nous,
דיברו רק צרפתית.
On ne parlait que français.
וכל השכנים חשבו שאנחנו צרפתים.
Tous les voisins pensaient que nous étions français.
כי אנחנו לא שזופים מאוד.
Parce qu'on n'est pas très bronzés, disons.
אבל בבית כשההורים היו מתווכחים,
à la maison, lorsque les parents s'engueulaient,
אז הייתה יוצאת הערבית.
Alors l'arabe sortait.
אני רק יכולה לומר שאני הייתי במצרים.
Je peux dire que j'étais en Égypte.
שנה לפני המהפכה האחרונה.
Avant la dernière
révolution.
L'avant-dernière d'ailleurs, celle de Morsi.
ואני אף פעם לא הרגשתי באף מקום ככה בבית.
Et je me suis jamais senti autant à la maison.
והייתי מאושרת.
J'étais heureuse.
עד הרגע.
Jusqu'au moment où j'étais dans un café, j'étais avec un ami avec lequel j'étais venu d'Israël, et à côté de nous,
en face, il
y avait un homme qui avait une soixantaine d'années avec une perruque. Il buvait une bière, et encore une bière. Et puis, de son ivresse,
הוא שואל אותי ואת הידית שלי מאיפה אתם.
פוז une question, il pose une question à mon ami. Vous venez d'où?
ואני התעלפתי.
Et moi, j'étais prêt à m'évanouir.
רק לא יגיד את האמת.
Je me suis dit, il faut pas que mon ami dise la vérité.
שלא יהרוס את האושר הזה שאני מצאתי מי אני ומה אני.
Qu'il ne détruise pas ce bonheur que je venais de découvrir de qui j'étais et d'où j'étais.
אבל האיש הזה הסתכל וחיכה לתשובה, ואז הידית שלי
attendait la réponse. Et mon ami, c'est imbécile, je lui parle plus d'ailleurs maintenant.
אומר לבחור המצרי,
il a dit à l'Égyptien, on est d'Israël.
באותו רגע האיש רוקן את המבט שלו, לא היה שום דבר במבט שלו.
Le regard, il n'y avait plus rien dans le regard. Il regarde et il regarde à travers nous. Il nous voit plus. On n'existe plus. Et c'était un choc pour moi. C'était triste.
Thank you. مكان في ليالي كان حروف لأن عمر مدى أنا مليش مكان في ليالي كان حروف
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Son séjour là-bas la libéra pour le restant de sa vie de la nécessité de s'élever dans l'échelle sociale. Ils appartenaient au traditionnel parti de droite, Erout, voté pour Begin à cause du mot Erout qui signifie liberté. La Grande se sentait chez eux libre à un degré incommensurable, à commencer par l'espace. Ils avaient un appartement immense, composé de deux appartements réunis. La Grande n'avait jamais vu ça de sa vie. L'aîné des trois avait demandé une chambre mauve, on avait fait venir un décorateur. Elle apprit tant de choses auprès d'eux. Tout un repas sans pain, une serviette en tissu pour chaque convive, pliée soigneusement sous le couvert de chacun. Parfois le couvert était en argent, héritage des grands-parents. Mais ce service lui paraissait moins beau que l'ordinaire, qui étincelait parce qu'on le lavait dans un lave-vaisselle avec de la poudre de vaisselle suisse. Un jour, elle fit une grosse gaffe. La mère, qui avait un bon cœur, mais une âme blessée et qui faisait son possible pour plaire à tous, lui tendit la main pour qu'elle lui donne son assiette. Et croyant qu'elle voulait faire « top là », la grande lui tapa dans la main. Elle avait 13 ans à l'époque. Entre l'entrée et le plat, la mère allumait une cigarette. À table, on parlait de Kafka, et chacun participait à la conversation. L'hébreu parlé chez eux était autre, différent de celui enseigné à l'école. Et d'une manière générale, autre chose bruissait là-bas, sous la surface des choses. La maison était pleine de livres, mais des livres en hébreu, dont certains étaient récents, et d'autres titres dont elle n'avait jamais entendu parler. Gare si elle prononçait dans cette maison le nom de Staline, alors qu'ils avaient mis leur fille dans une école où les maîtresses remplaçaient parfois le buste de Gordon, qui trônait à la cantine, par celui de Staline, même après la découverte des horreurs commises par lui. Ainsi, des sympathisants du parti Erout envoyaient une fillette habituée à une nourriture raffinée dans une école qui servait des repas d'ouvriers. Mais comme l'école précédente ne lui convenait pas, on l'avait mise à Gordon, réputée pour son ouverture à toutes sortes d'enfants. La Grande considérait les membres de cette famille comme des gens qui savaient vivre. Ils étaient passés du Erout au libéraux, ce qui n'avait fait qu'accroître leur liberté à ses yeux, car celle-ci était désormais universelle. Au repas, ils riaient de leurs propos respectifs et non aux dépens les uns des autres. L'un disait une chose et l'autre en riait, comme si c'était une plaisanterie. Parfois aussi, quelqu'un racontait une blague. « Écoutez ça !» disait-il. Puis il parlait pendant de longues minutes et on l'écoutait, sans l'interrompre.
Orly Castelblum, nous venons d'entendre une autre lecture tirée de votre livre qui nous occupe aujourd'hui, le roman égyptien qui vient de paraître chez Actes Sud. C'est une histoire qui concerne la Grande, donc la deuxième génération après les mésaventures du noyau égyptien. La Grande, c'est vous, on le sent. Et c'est une histoire où elle commence à découvrir qu'il y a la possibilité de rencontrer des gens qui ne sont pas de gauche, qui ne sont pas des anciens communistes, qu'on peut s'y écouter, qu'il y a une sorte de tolérance. Elle apprend ce jour-là des leçons qui lui serviront toute sa vie, mais elle apprend aussi qu'elle n'est pas très douée pour les mondanités. Plus tard, son amie la rejettera parce qu'elle ne saura pas se tenir en société. Il y a beaucoup de vos propres apprentissages dans ce passage du livre.
Et Ken,
vous savez, j'ai pris une gifle il y a quelques mois. J'ai rencontré dans la rue celle avec les cheveux longs.
Et
comme si j'avais 13 ans, je l'ai appelée par son nom. Elle ne s'est pas approchée de moi, donc moi je me suis approché d'elle. Son regard était très étrange. Je lui ai dit, tu te souviens de moi ? Tu te souviens de moi ? Elle ne répond pas. T'es en colère après moi ? Elle ne répond pas. C'est à cause de l'histoire ? C'est à cause des histoires. Toutes les histoires. Je dis bon.
J'ai
fait attention au fait qu'elle ne pesait plus que la moitié du poids. D'autrefois.
Et je lui ai
dit, ah, mais t'as l'air superbe. Elle a fait une grimace et puis elle est partie.
אז אני כתבתי על המשפחה הזאת, היא באמת, אמרתי לה, וכתבתי על המשפחה, לפני זה אמרתי לה,
כתבתי famille. על המשפחה שלה באהבה. Je l'ai dit, mais j'ai écrit sur ta famille avec amour, avec ouverture.
היא עשתה לי ככה בראש.
Elle a fait comme ça avec la tête, elle a hoché la tête.
וזהו, אנחנו ברוגז לעולמים.
Et voilà, maintenant, on est fâché pour la vie.
Orly Castelblum, l'écriture pour vous, c'est bien le lieu où vous pouvez reconstruire, consolider votre vie, où vous pouvez raconter ces histoires que vous aimez raconter. C'est aussi un lieu où expérimenter une forme de pensée, d'écriture qui vous met à part dans la littérature israélienne. Vous avez une manière à vous de déconstruire pour reconstruire. C'est une démarche étonnante.
Je veux dire pourquoi ça se produit comme ça.
Ma
langue maternelle, c'est le français. Quand je suis allée au jardin d'enfants, quand j'étais petite, j'ai pensé que tout le monde autour de moi devait parler français.
אמא שלי תמיד הביאה לנו מטפלות דוברות צרפתית.
מאמר, מה תוכל פה וניר?
סלסט, ארלט.
לדעם כי זה פלא סלסט, קולט, ארלט, פה נוגרדה.
וזה היה בשבילי שוק גדול מאוד להבין שאני בכלל לא בפוקוס עם המדינה.
De comprendre que j'étais pas vraiment sur la même longueur d'onde que le pays.
עכשיו, למדתי עברית במשך השנים.
J'ai appris l'hébreu au cours des années.
אבל נשאר לי בראש, נשארה לי בראש היכולת...
Dans la tête, il m'est resté cette possibilité de me construire sur la langue, de m'appuyer sur la langue.
להסתכל על אנשים מדברים עברית, ואיך הם מדברים עברית.
Les gens qui parlaient l'hébreu, et de regarder quel type d'hébreu ils parlaient.
ואני חושבת שבגלל הטעות...
Et je crois que, en raison de l'erreur, entre guillemets, commise par ma mère qui parlait français avec moi,
בגלל זה... נהייתי סופרת.
À cause de cela, je suis devenu écrivain.
Justement, écrivain veut dire traducteur pour nous, puisque vous écrivez en hébreu. Votre traductrice, nous la connaissons bien ici, c'est Rosie Pinas Delpuech, qui elle-même est écrivain. Alors, il fallait bien sûr qu'aujourd'hui, elle soit là. Elle le sera de deux manières. D'abord, dans le reportage d'Elsa Denac, qui nous a rejoint. Bonjour Elsa.
Bonjour, et on va parler avec elle de la langue, l'organe qui se trouve dans notre bouche, et puis toutes ces langues, celles que l'on parle, que l'on écrit, que l'on écoute, que l'on chante, que l'on lit. Rosie Pinas Delpuech est entourée de langues depuis son enfance, le turc, le français, l'allemand, l'espagnol et l'hébreu. Aujourd'hui, elle écrit des récits en français publiés chez Actes Sud et elle est traductrice de l'hébreu. Elle suit l'écriture d'Orly Castelblum depuis des années et elle nous explique comment fait-on pour traduire un roman? Comment fait-on pour faire entendre la langue de l'écrivain dans une autre langue?
Je fais quelque chose d'extrêmement élémentaire. Je traduis mot après mot, comme une fourmi. Ta-ta-ta-ta, bêtement. Très vite, je commence à entendre un rythme et il arrive un moment où, en quelque sorte, le texte me dicte ma phrase. Quand je traduis, je suis concentrée sur la forme du roman, sur la manière dont c'est construit. J'ai l'impression d'être une architecte qui transporte ailleurs un édifice. Donc je dois avoir tout le temps à l'esprit la construction de l'ensemble et la moindre pierre. Ma première traduction d'Orly remonte à 92, Dolly City. C'est une auteure que je suis de très près, dont je traduis les livres, et je croyais pouvoir. Et dans ce livre, elle prend tellement de risques que je me suis trouvée tout à fait démunie. J'ai l'habitude de suivre littéralement mes auteurs pour pouvoir donner le plus possible la bizarrerie qu'ils font dans leur propre langue. Décoiffer le français comme elle décoiffe l'hébreu. Comme toujours chez Orly, il n'y a aucun effet de style. C'est d'une simplicité sans aucune afféterie, sans le moindre adjectif. On a envie d'un peu de sauce. Chez Orly, il n'y en a pas. Il n'y en a pas et en même temps, c'est pas sec. Chaque mot est là, déroutant. Chaque mot vous réveille de vos habitudes littéraires.
La langue dit-elle beaucoup du pays d'où elle vient.
Chaque langue véhicule le national, mais l'hébreu est une langue vraiment très particulière à cause de son histoire. C'est une très très longue histoire. Entre la Bible d'il y a plus de 2000 ans et l'hébreu moderne d'aujourd'hui, qui est plein d'immigration, plein de couches en 100 ans, plein de couches de yiddish et d'arabe. Je veux dire, chaque écrivain qui écrit en hébreu aujourd'hui écrit avec d'autres langues. Chez Orly Castalblum, il y a du français. C'est là. C'est une littérature que moi j'entends de manière très sonore. Avec la rue, avec la Bible, avec la littérature, ça bruisse. Depuis enfant, j'ai adoré écouter les langues. Je suis née au milieu de deux langues et je n'avais pas forcément besoin de comprendre. Je regardais la bouche des gens, je crois que je ne savais même pas parler encore. Décrivez-nous le son de l'hébreu. J'ai écouté la langue, la sonorité des mots, tantôt rocailleux, gutturaux, tantôt traversé d'un souffle, comme si une haleine chaude
soufflait entre les consonnes, comme une langue inventée dans un rêve que l'on parlerait naturellement sans ne rien y comprendre. L'angoisse d'Abraham, page 55.
Quand on traverse des paysages de désert, il y a des cailloux sur de la terre ocre. Et les mots ressemblent à ces cailloux, comme ça. Il y a ce rocailleux de l'hébreu, et puis il y a des cheux qui sont très doux d'un coup. Donc c'est entre le doux et le rocailleux. Ça ressemble à ce paysage. C'est un dire, hein, comme un dire mythique, comme le grec, comme le Mahabharata. Donc c'est un souffle qui vient de loin, qui est à l'origine de la littérature. Exil en turc, c'est un mot absolument superbe. Gurbet. Gurbet. C'est être en terre étrangère. Exil en hébreu, c'est gola. Galout. C'est être exilé à l'extérieur d'un pays. Je cite Edmond Jabès qui dit « Ma langue maternelle est une langue étrangère ». Le juif, à cause des errances, n'a pas de langue maternelle. Et c'est ça qui est très passionnant, parce que c'est des langues apprises. Et donc, j'ai pas de langue maternelle, j'ai une langue paternelle. C'est le français. Mais là-dedans, il y a plein de parasites, qui sont les autres langues.
Pensez-vous différemment selon que vous parlez en français, en hébreu, en turc?
Je pense que oui. Par exemple, mon histoire dans le turc, qui est une histoire très enfantine, affective, était telle que je suis restée avec cette langue dans l'affectif, le descriptif. Chez moi, quelque chose s'est perdu en quittant le turc. Une espèce de fraîcheur, de spontanéité d'enfant, etc. En français, j'étais très corsetée. Parce que c'était un français d'un lycée catholique, extrêmement appliqué, extrêmement grammatical. J'ai adoré faire des pointes. J'ai fait de la danse classique. Et c'était ma danse classique. Et j'ai mis un temps fou à décorseter mon français, à enlever les pointes, à enlever les exercices à la barre. Et ce n'est que lorsque j'ai commencé à pouvoir faire couler mes langues étrangères dans le français, à l'assouplir, à lui faire de la place avec les sons étrangers que j'ai pu l'écrire. Et l'hébreu, il est la dernière de mes langues. Il m'a appris, et il continue de m'apprendre, et il m'apprendra jusqu'au bout, une autre manière de penser extrêmement concentrée et à partir du mot. Un peu aussi comme la psychanalyse. D'un coup, le mot me regarde, il me dit des choses. Alors qu'en français, j'articule des phrases, j'articule de la pensée, c'est l'analyse logique. Orly, quelle question lui poser ? Orly, quand tu travailles en hébreu, à quoi ressemble la langue pour toi ? La langue, l'hébreu, c'est une amie, c'est un adversaire. Comment tu fais avec les mots? Comment c'est dans ta tête avec cette langue?
Orly Castelblum, Rosie Pinas Delpuech qui nous a rejoint autour de la table, vous a posé une question. Quand vous travaillez avec l'hébreu pour écrire, est-ce que ces mots sont des amis ou des adversaires?
Au début de mon chemin, j'ai cherché comment écrire en hébreu. J'ai lu beaucoup durant ma vie, des livres traduits en hébreu.
Mais
je n'ai pas lu tellement d'écrivains israéliens qui écrivaient directement en hébreu. Je suis allé dans un marchand de livres, dans une... J'ai ouvert quelques livres, je ne citerai pas de nom.
Et
il me semblait que les lignes tombaient de la page.
Ce n'est
pas ce que je voulais. Je voulais que les mots collent à la page. Qu'ils fassent partie de la page. Quelque chose de chimique ou alchimique, même si vous voulez.
Et alors,
je suis tombé sur un livre de Yaakov Shabtai. Le titre, c'est « L'oncle Peretz s'envole, décolle ». Et l'histoire commence ainsi. L'oncle Peretz, c'était pas un oncle. C'était un communiste.
Et là,
j'ai compris ce que signifiait coller les mots sur la page. J'ai appris de lui énormément. Même aujourd'hui encore,
pour moi,
l'hébreu, c'est quelque chose d'extraterritorial. Comme si la langue hébraïque avait sa propre vie. Sans aucun lien avec la politique. Aujourd'hui, je continue de travailler et je considère la langue hébreu comme une personnalité.
Rosie Pinas Delpuech, vous venez d'entendre cette belle histoire de la langue dans la vie d'Orly Castelblum. Est-ce que c'est plus difficile pour une traductrice d'être contente de son travail pour ce type d'écriture que pour des écritures beaucoup plus classiques?
Je crois que je me suis d'emblée, presque sans avoir choisi, aveuglément déportée vers ce genre d'écriture. Orly a cité Yaakov Shabtai et c'est une de mes premières traductions qui m'a fait profondément entrer dans l'écriture et la traduction ensemble. Se coller à la page qu'elle vient de dire et que je n'avais pas entendu, je crois que je n'aurais jamais traduit, pas je crois, je le sais, si d'emblée je n'avais pas fait aveuglément ce choix. Cette forme de littérature absolument nécessaire. C'est-à-dire, il y a des écrivains qui racontent des histoires, on ne résume pas, mais on paraphrase en quelque sorte. Et il y a des écrivains, à la manière de Kafka, de Beckett, et Orly en fait partie, Yaakov Shabtai, et l'hébreu se prête à ça, l'hébreu de la Bible, en laissant totalement de côté la religion, c'est une langue dont les mots surgissent de l'intérieur de la page et vous interpellent. Donc, c'est ça que je traduis, que j'essaie de traduire en français.
Orly Castelblum.
Je voulais dire que c'est une traductrice exceptionnelle. Et que, sachant que mon livre était entre ses mains, je pouvais dormir tranquille.
Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Et je rappelle que ce livre dont nous avons parlé aujourd'hui d'Orly Castelblum s'appelle Le roman égyptien, qu'il a donc été traduit de l'hébreu par Rosie Pinas Delpuech. Il vient de paraître aux éditions Actes Sud. Et le livre de Rosie Pinas Delpuech, L'angoisse d'Abraham, chez Actes Sud également. Il est sorti il y a juste quelques mois. Merci à toutes les deux d'être venues nous voir aujourd'hui. C'était un plaisir.
Merci Kathleen Eva.
Et merci Michel Zotowski qui est toujours là quand on parle hébreu.
dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
C'est fini pour l'humeur vagabonde aujourd'hui, mais bien sûr France Inter continue, puisqu'après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et ses aventuriers. Quant à nous, nous nous retrouverons dimanche prochain, si vous le voulez bien, je recevrai le dessinateur Emmanuel Lepage, qui publie une très belle BD intitulée « Les voyages d'Ulysse ». Très bonne journée à l'écoute de France Inter.